Coup de sûr. Dans le mid. This is awesome. Avec Pierre Couture et Frank le Détoniseur. Radio X.
Ouais, 10h20 pile, bienvenue à Couture dans le mid pour les deux prochaines heures. Bien tassé, on a du gros matériel pour vous. On va jaser avec le Food Professeur Sylvain Charlebois autour de 10h40, 10h35, 10h40 à peu près, selon où ce qui est rendu. Là. Sa planète, il voyage beaucoup, Sylvain. Frank?
Yes, Pierre.
Tout est beau?
Tout est beau.
Tout va bien?
Tout va bien. Ben, tantôt, tu sais, les applications Waze, Google Maps, il y en a qui utilisent plein si vous êtes avec Apple puis tout ça. Tu sais, ils te demandent toujours de valider si les travaux sont encore là quand tu es dans une section de construction. J'aimerais ça qu'ils ajoutent une option que quand tu réponds, ils te le redemandent pas pour 4-5 ans, mettons. Parce qu'ici, là, c'était tous les jours. Est-ce que les travaux sont encore là? Puis j'ai le goût de dire, oui, ils sont là, puis ils sont là pour très longtemps, mon ami.
Ben,
fait qu'arrête de me le demander.
17 chantiers dans la région de Québec, on dit autour de. Ça, c'est ce qu'on connaît. Parce qu'il y en a d'autres.
Ça arrive sud, mon gars, là. C'est les gens qui nous écoutent de la rive sud, c'est le chaos, là. C'est, tu sais, parce que pour faire d'est en ouest, ça arrive sud, il n'y a pas 50 façons. C'est Guillaume Couture,
ouais.
L'autoroute. Puis mettons que tu veux aller à l'aventure un peu, tu prends le chemin sur le bord du fleuve, là, tu sais, qui longe le Quai Paquette, puis tout ça. Hier, je m'en allais à un rendez-vous. Je passe sur ce chemin-là. Oups, à un moment donné, il y a un détour. Il me ramène en haut sur Guillaume Couture. Fait que là, un des trois chemins était bloqué à 100% à partir d'un certain stade. Rendu sur Guillaume, ça refoulait, tu sais, du petit viaduc à Saint-Romuald, là, ça refoulait jusqu'à l'autre bout de Lévis. C'est le chaos. C'est le chaos bien raide. Puis là, t'es dans ton char, ça te dit, est-ce que les travaux sont encore là? Oui, ils sont encore là.
Et cette ville-là, là, Lévis, grandit à vitesse grand V. Et dans les prochaines années, ça va être encore problématique, ça, parce que là, les travaux d'aqueduc, les municipalités, ils doivent raccorder des nouveaux bâtiments. C'est un peu ça, là. C'est une ville qui est en forte croissance. Fait que on va prendre un mal en patience. Et Québec, même affaire, là, c'est de
oui,
toujours, il apparaît un nouveau chantier à gauche, à droite, dans Limoilou ou ailleurs, là.
Oui, puis je pense qu'on va. Ces villes-là s'enlignent, tu sais, la rive sud, ça s'enligne pour faire les mêmes erreurs que Québec. C'est-à-dire, on va avoir les mêmes infrastructures, même si la population explose. C'est-à-dire, tu sais, ça arrive sud, il n'y a pas de plan pour faire une autre autoroute, il y en a une.
Ah non,
s'il y a un accident, s'il est bouché, s'il y a de quoi que ce soit, c'est juste ça refoule jusqu'à l'autre bord de Lévis.
La voie, là, la voie de l'autoroute 20, là, ça va prendre 10 ans de l'élargir en 3 voies, là. Ça s'invente pas, là. 10 ans, ça c'est la CAQ qui a annoncé ça, là, Benoît Charrette, qui a annoncé que ça va prendre 10 ans élargir la 20. Puis c'est le bordel, là, quand t'arrives, mettons, là, à toute fois que moi j'arrive à Lévis, mais par, mettons, Montigny, là,
oui.
Ça bloque au moins une demi-heure là, avant d'arriver au pont. Tout le temps.
Peu importe l'heure du jour.
Tout le temps.
Un dimanche à 9h30 le matin.
C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal ce qui se passe là.
Mais non, c'est pas normal.
Bon, hey, météo. Parce que là, je regarde, hier, il faisait très beau. Je suis allé au Grand Feu, l'Auto-Québec. Il y avait du monde en ville. Il y avait du monde. C'est sûr que ça draine beaucoup de familles et tout ça, mais c'était vraiment trippant. Il faisait beau. De part et d'autre, j'imagine qu'à Lévis aussi, le Quai Paquette, on le voyait, c'était illuminé. Il devait y avoir du monde là. Ben là, écoutez, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus pénible. Peut-être de la pluie, on dit, autour de 13h. Midi, 13h jusqu'à 16h pour avoir de la pluie. Mais après ça, ça pourrait se clairer. Et jeudi, vendredi, samedi, on dit très beau. Pas de problème là, on va être correct. Mais aujourd'hui, là, ça peut être un petit peu plus flottant comme température. Bon, ben we have a deal. On a-tu un deal, Frank, ou on n'a pas de deal? Trump, encore une fois, 2 heures avant la date butoir fixée à minuit 7, ben, dans la nuit de mardi à mercredi, ben il a dit, ben, on a une entente. En tout cas, on pense qu'on a une entente. On se donne 3 jours pour... parce que ça veut dire qu'ils ont comme garoché des affaires sur la gueule la dernière minute.
Ouais, ouais, ouais.
Puis
ouais.
Là, il va falloir le mettre par écrit. On parle de Keystone XL aussi. Trump a mis ça sur son réseau social, Truth Social, en disant qu'on a peut-être réanimé le projet qui était mort, notamment... Ouais,
j'ai le tweet sous mes yeux. Il dit là, je mets sur pause les tarifs de 50% que j'ai annoncé pour le Canada, qui était prévu pour rentrer aujourd'hui. Dans le fond, lui, il écrit demain, mais ça a été écrit hier soir. Il dit, basé sur le fait que le Canada et les États-Unis sont en train de finaliser des documents I have a deal. We have a deal. Bon. Donc, nous avons une entente. Et là, il dit The Great Keystone XL Pipeline, donc le projet Keystone XL Pipeline, tué par Joe Biden, pourrait peut-être.
Sleepy Joe Biden
pourrait peut-être revoir le jour. Ouais. Merci pour votre attention à ce sujet, Donald J. Trump. En fait, quand j'ai vu ça popper hier soir, j'ai repensé à nos amis péquistes, puis j'ai eu une petite pensée pour eux autres qui sont sortis la journée même pour nous dire. Hey, Trump, là. Hey, on sait plus quoi faire. Là. Va falloir attendre le soir même, le gars annonce qu'il y a une entente. C'est un méchant fail.
Ah ben surtout que là, ils viennent de nous dire aussi, les péquistes nous ont dit que le safe space, c'est dans le Canada. Hein. C'est pas un Québec souverain. On va aller se parquer au Canada en attendant que Trump se... Hey, ça, quand même.
Non, mais ils n'ont pas le choix. Il y a une partie de leur électeur qui tripe sur Carney.
Ben, il y a ça. Là, il y a l'histoire des alcools américains. Là, ce qu'on comprend, c'est que dans le deal, les alcools américains vont revenir sur les tablettes des monopoles d'État, dont la SAQ. Et c'était un irritant majeur dans la discussion. Il y a aussi des contre-tarifs que le gouvernement canadien avait passés sur des produits américains qui rentraient au Canada, notamment des voitures et autres. Ça aussi, c'était un irritant. Fait qu'on va évaluer tout ça, mais on pourra avoir des conférences de presse prochainement là, où Mme Fréchette annonce que ben, la SAQ remet les alcools américains sur ses tablettes, les bouteilles d'alcool. Donc, il y a ça aussi dans l'équation. Ça va être à surveiller comme évolution du dossier. Il y a aussi les marchés boursiers. Ce matin, on était dans le vert. Ben, c'est sûr que ça l'a aidé. Là. T'sais, les Américains ils disent, nous autres, libre-échange, c'est important pour nous autres. Les marchés boursiers regardent ça, les grands gestionnaires de fonds, puis disent, le Canada est très important, donc cette entente-là nous permet de peut-être voir autre chose, là, encore là. Ça, c'est pas l'ACEUM, hein? C'était comme une pression pour enlever des tarifs, parce que c'était des tarifs qui avaient été ajoutés ou des mesures de rétorsion par rapport à l'acier, l'aluminium que Trump avait mis. Fait que là, on revient à zéro, là. Tu comprends? On revient à zéro, puis là, on va peut-être négocier un accord de libre-échange. Et j'imagine qu'on discutait de ça aussi. La gestion de l'offre, d'ailleurs, on va en parler avec Sylvain Charlebois, 10h40.
Ben, c'est parce que les Canadiens, ben, tu sais, puis de chaque bord, personne ne veut concéder rien. Mais je pense qu'à un moment donné, dans une négo de bonne foi, il faut que tu cèdes sur des affaires. C'est ça le but d'avoir une entente, c'est ça le but d'avoir une négociation. Puis finalement, tu veux que les deux parties. L'idéal, c'est que tu veux qu'à la fin, les deux parties signent au bas de la feuille, puis qu'ils se disent, bien, tu sais quoi, j'ai concédé là-dessus, mais au final, je pense qu'on gagne pareil, tu sais.
Ouais.
C'est ça que tu veux, mais là, est-ce qu'on est en position de faire ça? Bien, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr, tu sais, ça dépend des sensibilités du monde. Les gens qui sont très écolos, de voir que le Keystone XL serait peut-être, renaîtrait peut-être de ses cendres, eux autres, et pour eux autres, c'est une défaite, là.
Non, ben, je faisais là, faut être réaliste. Là. Trump est allé au Venezuela chercher du pétrole. Il est en Iran pour du pétrole. Il y a du pétrole canadien au Canada qu'on va pas chercher. Lui, il a dit, je vais le ramasser, votre pétrole. Donc, faites-moi un deal. Le deal est là. Il va ramasser du pétrole canadien, puis ils vont l'amener aux États-Unis, puis ils vont nous le revendre plus cher. C'est ça qui va arriver.
Mais mets-toi dans la place d'un gars comme Stephen Guilbeault, là, qui est rentré dans le gouvernement Trudeau en nous disant, ça va être là. Ouais, mais il est pas tout seul de ça. Moi, je pense qu'il représente une aile du parti... Des gens quand même assez radicaux, anti-énergie, anti-pétrole, tout ça. Là, Carney annonce des projets avec l'Alberta. Possiblement que ça se rend jusqu'au BC. Là, s'il faut qu'on ressuscite Keystone, tu sais, Carney, ça tient pas à grand. Ça serait intéressant d'en parler avec notre invité tantôt. Mais je sais pas si la coalition elle tient si fort que ça. Là.
Mais moi, j'en reviens à dire, puis là, je vais vous le dire encore, je l'ai dit, ça fait depuis Carney est là. Carney, c'est l'homme de Trump. Trump voulait Carney. Et là, Carney est en train de lui donner tout ce qu'il veut. Je veux dire, c'est pas compliqué. Carney joue le jeu. Hein, il nous a monté Trump ici au Canada. Mais le deal, c'est que Carney, c'est l'homme de Trump depuis le départ. S'il avait voulu Poilievre, dans la campagne électorale, il l'aurait dit. Mais dans la campagne électorale, l'année passée, souvenez-vous, Trump a dit aux Canadiens, Carney, c'est lui qui il fait une bonne campagne, puis c'est lui que je veux. Fait qu'il l'a eu. Puis là, ben, il joue avec, il s'amuse. Carney est quand même un gars de Brookfield. Brookfield a déménagé son siège social de Toronto à New York. Et c'est il danse avec les Américains. Là. Sa femme est quoi? Vit à New York? Ça se peut-tu? Ou ses filles étudient du côté des États-Unis? Carney, c'est un ami. Il vient de l'Alberta, là, mais c'est les États-Unis. Alors là. On est dans un deal. Moi, je l'ai dit. Il va y avoir une danse. Oui, il va y avoir des coups qui vont se donner, mais à la fin de la journée, on va avoir une entente avec les Américains. On ne peut pas mettre fin à un accord de libre-échange de cette nature-là. Ça serait complètement débile. Là.
Mais c'est une des plus grandes mascarades de l'histoire de la politique, cette histoire-là de elbows up. Oh, on va se battre, puis on va défendre notre souveraineté, puis de la patente. En réalité, la thématique qu'il y avait derrière, c'est la renégociation de l'accord de libre-échange, mais...
Comment tu fais avaler une couleuvre à quelqu'un qui veut pas l'avaler? Ben, tu lui fais à croire que la couleuvre est disséquée, puis il va-tu l'avaler par petits morceaux?
Ah oui, la petite cuillère.
Ben, c'est ce qu'on fait, là. On est en train de faire avaler aux Canadiens, ben, à petits morceaux, les accords de libre-échange, puis les Américains, on n'a pas le choix. Hey, on est 10 fois plus petits qu'eux autres. Je veux dire ça. Puis le pétrole, il se consomme 105 millions de barils par jour. Puis il va s'en consommer encore 105 millions dans 5 ans, dans 10 ans. Là.
Mais tu sais, tout le monde disait, ouais, mais Poiliev, c'est quoi qu'il peut faire là-dedans? Je lisais un article dans le National Post hier ou avant-hier qui disait, cassez pas votre tête, là. Tu le changes par n'importe qui, ça marche pas non plus. Il y a des maisons de sondage qui ont fait les tests avec toutes les personnalités que vous pouvez
pour
pas imaginer.
Pour l'instant.
Même en ramenant Harper, même en mettant le fils à Mulroney, tout le monde, il n'y a personne qui bat Carney dans les sondages.
Oui, mais de toute façon, Carney, là, t'as vu ce qu'il a fait aussi, comment ils ont joué à game quand ils l'ont amené, Carney? Ils ont joué les Américains. Oui, oui, puis ils ont joué le Canada contre les États-Unis.
Exact.
L'antithèse, puis Trump étant la personne forte, là, parce que si t'enlèves Trump, on l'a vu hier, les péquistes, là, Trump, ils vont vouloir l'identifier comme étant l'ennemi à battre.
C'est sûr.
Puis SVP doit se dégager de Trump parce que souvent les gens l'ont comparé à Trump, un mini-Trump. Il s'est fait dire ça par des gens.
Non, c'est radioactif.
Fait que, tu sais, Trump, là, dès que tu mets Trump dans une conversation et tu dis que t'es contre, là, les gens, je t'aime, toi.
Il y a une grosse game de manipulation là-dedans.
Donc, moi, je vous le dis, là, Carney, c'est l'homme de Trump. Il va arriver à un deal. Carney, à l'époque, qui était chez Brookfield, Jared Kushner a négocié des gros prêts, ça s'est fait... Regarde, tout ce monde-là se connaissent, là. C'est des banquiers de haut niveau. Trump connaît toute cette gang-là. Et on va avoir un deal. C'est peut-être pas un deal que tout le monde va aimer, mais on va avoir un deal sur la table éventuellement. Donc, voilà. Bruno Marchand est de retour. Bruno Marchand qui est en vacances. Il est allé en Italie, d'ailleurs. On a eu des très belles photos de lui.
Ouais, lui aussi, il est comme Trudeau. Son empreinte carbone
est bonne, hein?
Elle est bonne, oui.
Très, très bonne. Le gars, il revient, puis là, il nous parle de taxes.
Taxer l'eau, puis c'est quoi l'eau?
Taxer les vidanges. Là, il dit qu'au niveau recyclage...
vidanges, on paye des taxes municipales.
Oui, mais c'est surtout les commerçants. Et tu sais, quand tu parles avec la...
Ouais, c'est tout le temps
Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Eux autres, ils ont déjà mangé le coup là, avec Recycle Québec puis Consigne Action. Puis là, lui, il arrive, les maires arrivent après ça pour finir la job bien comme il faut sur les entrepreneurs. Là. Ils leur foutent des tarifs pour l'eau, recyclage et autres. Là, il dit qu'il va sortir le bâton de la taxe. Et là, écoute, c'est magique. T'as des gens de chambre de commerce qui applaudissent ça puis qui disent « Ah, c'est le fun, hein? On va se faire taxer davantage puis c'est le fun à Québec. » Donc, attendez-vous à avoir des hausses de coûts partout, là, des hausses de services. Les commerçants vont se faire taxer davantage. Marchand aussi, anti-troisième lien. Là, il dit que c'est pas un fait divers qui nécessite la construction d'un troisième lien. Le gars complètement déplugué.
J'ai entendu dire qu'il fallait pas... Tu sais, Duhem, ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait, là, faire de la politique sur le dos d'un mort. Lui, il vient de faire la même affaire.
Il parlait d'un fait divers.
C'est un fait divers.
Mais qui a fait chier tout le monde pendant 12 heures dans la région de Québec. Mais lui, c'est ça. La Ville de Québec ne veut pas de troisième lien parce qu'ils vont perdre. Les gens vont aller beaucoup rester l'autre bord. Donc lui, là, son but, c'est de contrôler les taxes, contrôler aussi les permis de construction. Écoute, ça ne s'invente pas ce matin. C'est dans la presse. Des milliards payés par les locataires, les propriétaires. Et c'est l'Institut de développement urbain qui sort. Eux autres, c'est le lobby des promoteurs. Puis écoute, c'est capoté ce qu'ils disent, eux autres. Et ce qu'ils nous disent en sorte, là, c'est que les villes, maintenant, taxent tellement le logement, les promoteurs immobiliers. On parle à Mascouche qui a 8 000 $ par logement, une espèce de taxe pour construire. On dit que dans la région de Québec aussi, ils donnent vraiment l'exemple de la région de Québec où on dit, dans le multirésidentiel, Frank, écoute ça, en 2019, un logement coûtait à un promoteur en moyenne 218 000 $ à monter en termes de coût.
Ouais.
Et maintenant, on est rendu à 380 000 $. Ça a pratiquement doublé en 7 ans. Là, vous vous demandez pourquoi les logements explosent, les prix des logements, puis que tu as des villes qui contrôlent aussi les permis. Donc, on va charger au promoteur des gros montants, on va se coller sur le promoteur, des milliers de dollars par porte. Ça fait exploser les coûts. Et ce qu'il nous dit, c'est que, mettons, sur 380 000, là, entre 30 000 et 60 000 pourraient être imputés aux coûts et surcoûts réglementaires, des règlements à pu finir, soit l'équivalent de 160 à 400 $ de loyer de plus par mois s'il est loué, ou de 185 à 370 $ de versement hypothécaire s'il est acheté. On est là-dedans, là. Tu sais, quand on vous dit, cette semaine, tu m'as demandé pourquoi les prix des loyers à Québec, ça a monté, puis tout ça. Puis bien, c'est ça. Puis là, tu te dis, pourquoi ils font plus, les promoteurs ont de la misère à monter là, des projets, là? Ben, c'est ça.
La réglementation finit toujours par avoir un coût. Puis en général, c'est le dernier au bout de la pipe qui le paye.
Mais c'est... La Ville de Québec qui fait des surplus là, année après année. Ah, on a fait 30 millions. Ben oui, mais ils le font sous votre dos, là. Ils vont chercher au promoteur. Ils chargent des grosses taxes au promoteur. Le promoteur, il dit, moi, vive ici, là.
Puis
là,
oui, absolument.
À Montréal, t'as des promoteurs qui vont plus sur l'île de Montréal. Ils sortent de l'île de Montréal. Ils s'en vont ailleurs. Ils vont construire en banlieue. Luc Poirier le disait. Moi, Montréal, ça m'intéresse plus. Il y a bien trop de taxes à gauche et à droite. Ça arrive au final, un condo qui devrait coûter, mettons, là, 350 000 au client. Bon, on est rendu à 500 000, 550 000. Là, vous regardez les projets aussi de maisons unifamiliales dans la région de Québec. Il n'y en a plus, là, je veux dire, des projets immobiliers. Là, on a ce qu'on construit, c'est en hauteur, puis on parque du monde. Puis bien souvent, il n'y a peut-être plus de stationnement non plus en dessous de l'immeuble. Donc, on s'en va là. On s'en va là et il va chercher des gros montants par porte. Les promoteurs disent qu'ils ne veulent pas dénoncer ça directement. Là. Je pense qu'on veut un dialogue. On veut établir un dialogue avec les villes et autres. Donc, on est pas mal là-dedans. Mais honnêtement, les villes qui ont augmenté leurs taxes au cours des dernières années pour toutes sortes de raisons, elles dépensent sans lendemain. La Ville de Québec, regardez les dépenses, comment les dépenses ont explosé. On parlait d'un budget de quoi? De 1,6 milliard. On est rendu à 2 milliards, 2,1 milliards, la Ville de Québec. Année après année, on rajoute tout le temps des dépenses, mais on ne veut pas couper. Mais on va chercher l'argent à où? D'un taxe municipal, d'un poche des promoteurs immobiliers. Le promoteur immobilier, lui, il sait calculer, il se revient de bord, il dit ben, faut que je passe la dépense à mon client futur, que ce soit dans le résidentiel ou encore dans le neuf.
C'est clair.
On est là-dedans.
Voilà. Il n'y a pas de magie. Là,
non, il n'y a pas de magie. Là. Mais les autres commencent à trouver. Ça commence à être tough. Là. On parlait avec les promoteurs, M. Trudel notamment. Les autres, c'est des gros promoteurs dans la région de Québec. Et des fois, c'est 7 ans avant d'avoir un permis de construction. Il y a tellement de règlements, puis de patentes, puis de ci, puis ça. Des fois, le gars, il dit, ben là, moi, regarde, là, je vais faire d'autres choses.
Bien, c'est parce qu'on essaie d'aligner ensemble des objectifs qui sont pas compatibles. On veut des loyers puis de l'habitation pas chère, parce qu'on dit on a une crise du logement.
Mais tu l'auras pas.
Mais tu l'auras pas si tu empiles des réglementations une après les autres. Puis regarde ce qu'ils font à New York puis ce qu'ils ont fait à Montréal avec toute l'histoire de... C'est comment ils appelaient ça, le 20-20-20. Là, tu dois avoir tant de pourcentage de logements abordables, tant de ci, tant de ça. Puis c'était tellement compliqué que les constructeurs préféraient payer à pénalité à la ville que de se conformer au règlement.
Parce que lui, à plus longtemps, il faisait plus d'argent avec ses loyers. T'sais. Parce que le 20-20-20, il fallait que tu réserves des loyers à un prix modique.
C'est
ça. Logement abordable. Alors que là, tu dis, ben moi, gars, je vais payer la pénalité, mais mes loyers, je vais faire au prix que ça m'a coûté pour 10 ans, les 10 prochaines années, je vais monter tranquillement. Voilà, fait qu'on est là-dedans. On est là-dedans des taxeux, puis des passeux de factures. Mais quand c'est le temps de couper, là, puis de faire le ménage dans le sous, ils le font pas. On est là-dedans.
C'est pas mal ça.